On va continuer à parler de la vraie vie face aux politiques et face à la difficulté de faire changer d'ailleurs cette vraie vie, puisque comme vous le savez, ce projet de loi sur la résidence alternée qui était proposé par le Modem a fait l'objet de débats inachevés jeudi dernier à l'Assemblée, mais la situation demeure. On va essayer de comprendre quelles sont les différentes raisons pour lesquelles ces lois sur le divorce posent toujours autant de problèmes. 8h21 sur France Culture.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et pour évoquer cette question du divorce, nous sommes en compagnie de Marie-Rose Moreau, psychiatre, professeure de pédopsychiatrie à Paris Descartes et chef de service à la Maison de Solène. Vous avez notamment publié « Quand l'adolescent s'engage ». À côté de vous, nous recevons Hélène Périvier. Bonjour, vous êtes économiste à l'OFCE, co-responsable du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Et l'une des questions qui se pose sur ce projet de loi autour de la garde alternée, c'est la question économique, avec des inquiétudes légitimes, avec également des barrières, parce que la garde alternée, ça coûte très cher.
Oui, alors d'abord déjà, la question du divorce et des séparations, ça coûte cher. Les personnes qui nous écoutent et qui ont subi ce genre d'événements dans leur vie, ils savent que au moment où on se sépare de son conjoint, de sa conjointe, on a une baisse du niveau de vie. Ça a été très bien montré par une étude de l'INSEE. D'ailleurs, je tweeterai un graphique qui ira dans ce sens et qui permettra de montrer que cette perte de niveau de vie est importante. Elle est plus importante pour les femmes que pour les hommes, beaucoup plus importante, y compris quand on prend en compte les transferts privés, c'est-à-dire les allocations versées d'un parent vers l'autre, ou les transferts publics, puisque il y a beaucoup de politiques publiques qui viennent aider ces situations de précarité.
C'est-à-dire, dans quelle mesure est-elle importante? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on assiste à cette situation après le divorce?
Quand on se met en couple, on a ce qu'on appelle des économies d'échelle. Pour vivre à deux, on n'a pas besoin de doubler la taille de son logement, on n'a pas besoin d'avoir deux frigidaires. Donc, de fait, quand on se sépare, par contre, on est obligé à nouveau d'avoir deux logements. Et ça, c'est, je pense, un élément clé de la situation des parents qui divorcent. C'est la question du logement, d'autant que lorsqu'il y a des enfants, il faut pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, donc avec un logement adéquat. Et la question de la garde alternée, elle est encore plus aiguë, puisque bien sûr, il faut deux logements de taille égale, puisqu'il est question d'accueillir l'enfant dans un partage en termes de temps. Donc de fait, cette question de la perte d'économie d'échelle, elle est très importante. Et les gens se retrouvent dans des situations beaucoup plus compliquées du point de vue de leur niveau de vie. Donc on voit bien que ces questions de séparation et de divorce, elles sont à prendre en compte avec la situation économique des familles. Hein. Une famille plutôt modeste va avoir beaucoup de difficultés, un, à se séparer, deux, à mettre en place une garde alternée qui est très coûteuse.
C'est la raison pour laquelle on a dit que cette garde alternée, elle était plutôt, c'était une proposition de loi, plutôt en direction des classes aisées. Vous êtes d'accord avec ça?
C'est vrai que, de fait, ce sont plutôt des familles aisées qui vont pouvoir trouver une organisation qui permette d'avoir deux logements de taille identique ou proche dans le même quartier le plus souvent où ils habitaient auparavant. Donc les contraintes sont beaucoup plus fortes. De fait, évidemment, il faut pouvoir assurer du point de vue des revenus de la part des deux parents. Donc c'est évidemment une situation qui est beaucoup plus centrée sur des familles, disons, avec un revenu suffisant. Et puis on voit que un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que les familles modestes qui se séparent, on voit vraiment une perte de niveau de vie et parfois pour les enfants des situations de pauvreté. C'est là où les politiques publiques doivent être interrogées dans leur capacité à accompagner ces séparations de sorte à ce que la situation économique des deux nouveaux foyers ne fasse pas tomber l'enfant ou l'ensemble des deux foyers dans la pauvreté.
Est-ce qu'on a des pays où cette situation serait mieux traitée qu'en France, Hélène Périvier?
Oui, parce qu'il y a des pays qui ont davantage accompagné ces nouvelles configurations familiales. C'est vrai que les politiques publiques en France, l'État social est beaucoup plus encore fondé sur l'idée d'un couple marié qui va rester stable, qui aura des enfants. Or aujourd'hui, on le voit, les configurations familiales sont multiples, très hétérogènes. Les gens parfois ne se marient pas, se séparent, divorcent, se remarient. Et ces recompositions familiales sont assez compliquées à accompagner. Alors il y a des pays qui sont beaucoup plus fondés sur l'enfant lui-même, donc la situation de l'enfant, donc les droits sociaux sont beaucoup plus associés à l'enfant, ce qui permet un peu plus de souplesse. La question de la résidence, elle est très importante au-delà de la question de où vive l'enfant, c'est que c'est une question de qui va toucher les allocations et les prestations. Donc s'il y a une double résidence, il y a une possibilité d'avoir deux allocataires. S'il n'y a qu'une seule résidence pour l'enfant, alors l'ensemble des prestations sociales et familiales seront perçues que par le parent qui a la résidence de façon principale.
Dans le cas d'une garde alternée, Hélène Périvier, les obligations de chaque parent, ces obligations sont-elles modifiées? Est-ce qu'on ne parle plus de pension alimentaire? Bref, toutes les questions traditionnelles, que deviennent-elles?
Non, alors il peut y avoir quand même versement d'une pension, y compris dans une garde alternée. Après, le traitement fiscal, par exemple, ça peut être très technique, mais on n'aura pas nécessairement droit, on va devoir soit déduire la pension, soit ne pas avoir droit à la, au quart de part fiscale supplémentaire.
Pourquoi ?
On peut pas, parce qu'on ne peut pas avoir les deux. Donc il y a une forme de complexité dans un système fiscal et social qui est pensé pour, encore une fois, un couple marié stable. Eh bien, on se retrouve parfois dans des situations un petit peu compliquées où il y a ces questions des parts fiscales accordées par enfant que les parents peuvent partager, hein, dans le cas d'une garde alternée. Les allocations familiales peuvent aussi être partagées. Il faut qu'il y ait l'accord des deux parents, mais c'est possible. En revanche, par exemple, sur les allocations logement, c'est extrêmement récent. Hein, depuis septembre de cette année, on autorise les parents en garde alternée à pouvoir partager le droit à une allocation logement. Simplement, elle est calculée au prorata de la résidence de l'enfant chez le parent. Donc ça ne couvre pas l'ensemble des frais pour les parents dont les logements, enfin, qui ont dû changer de logement. Et donc il y a encore une fois une question de classe sociale qui est extrêmement importante sur cette question-là.
Oui, parce qu'il faut rappeler aussi que cette proposition de loi donc, de Philippe Latombe, qui est un député MoDem, elle consistait à fixer une répartition dans la garde alternée. Alors, il y avait la garde alternée dite classique, qui était une garde alternée 50-50. Il y avait aussi la possibilité d'avoir une garde alternée 70-30. Mais en tout cas, l'idée, c'était de faire que, par défaut, c'était la garde alternée qui s'imposait. Une garde alternée 70-30, est-ce que c'est une solution qui est plus pratique, plus compliqué, selon vous, Hélène Périvier?
Je pense que c'est très variable selon les situations des familles et la possibilité réelle qu'ont les familles de mettre en place cette garde alternée d'un point de vue économique et de ressources. Après, je voudrais vraiment remettre l'accent sur l'idée de la résidence et de l'importance de cette question de la résidence sur l'accès à des droits, encore une fois, qui permettent de compenser la perte de niveau de vie, même si c'est que partiellement, au moment de la séparation.
Marie-Rose Moreau, vous en pensez quoi lorsque vous avez évoqué les conséquences sur l'enfant du divorce? Vous avez dit donc qu'il y avait d'une part un choc lorsque l'enfant l'apprenait, ensuite des possibilités malgré tout que celui-ci le vive mieux, mais on se demande si la garde alternée, elle est toujours faite pour les enfants, si on ne pense pas d'abord aux parents, et puis ce sont les parents qui votent dans un système ou dans un autre d'ailleurs.
Oui, bon, d'abord pour les parents, vraisemblablement. Mais en ce qui concerne la question de la sociale, je constate que l'importance de la classe sociale, effectivement, et de la précarité sociale de certaines familles et de certaines femmes tout particulièrement. Et c'est vrai que ça, les enfants vont le percevoir très vite. Et c'est pour moi une donnée très importante de la question de la sécurité. Et le deuxième point qui rejoint ce que vous avez dit, c'est l'importance de ce qui appartient à l'enfant, c'est-à-dire le fait que ce soit un droit au fond de l'enfant et une possibilité de protection de l'enfant. Donc au fond, le divorce, la séparation, ça va entraîner beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de vulnérabilité pour les familles, pour les femmes et pour les enfants. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc, il est important que sur ces différents niveaux, en commençant par l'enfant, on puisse avoir une réponse un peu plus simple que celle qu'on a aujourd'hui.
Hélène Périvier, votre point de vue là-dessus ?
Oui, je pense qu'on gagnerait beaucoup en clarté à avoir des politiques publiques beaucoup plus, encore une fois, axées sur la situation réelle des enfants. La question des services publics est très importante. Hein. Par exemple, avoir la possibilité de faire garder son enfant proche de chez soi dans de bonnes conditions. Ça permet aussi aux femmes de travailler et de pouvoir s'insérer mieux sur le marché du travail, donc de limiter l'effet de cette précarité qui est beaucoup due au fait que les femmes sont celles qui ont encore à leur charge plus de 70% des tâches familiales et domestiques. Et c'est ça qui, au moment du divorce, fait qu'elles ont une perte de niveau de vie beaucoup plus importante que les hommes. Donc là, il y a des choses à faire qui doivent permettre d'accompagner ces situations pour que la situation économique et sociale de l'enfant soit le moins possible affectée par ces ruptures de couple.
Et là aussi, est-ce qu'il y a des pays qui tiennent compte de cela, du fait qu'il y a, d'après vous, un déséquilibre entre les hommes et les femmes au moment du divorce? Est-ce que certains pays tentent de contrebalancer ce déséquilibre?
Alors, bien en amont, des pays nordiques, c'est assez connu, hein, prennent la question de l'égalité femmes-hommes très au sérieux. Hein, donc, l'égalité professionnelle, l'égalité dans la famille, l'égalité dans la vie politique. La France est très très loin du compte de ce point de vue-là, en termes de participation au marché du travail, de possibilités de carrière, d'inégalité salariale, de discrimination. on a encore beaucoup à faire. Et ça, c'est un travail un peu en amont pour qu'au moment d'une séparation, chaque parent puisse avoir sa possibilité d'émancipation et pouvoir avoir les ressources suffisantes pour s'occuper de l'enfant. Donc là, c'est un travail, j'allais dire, un peu de fond. Mais la question des services publics est très importante, notamment pour les classes sociales les plus défavorisées, en termes, donc je le disais, de mode de garde, mais aussi, par exemple, en termes de loisirs, d'accès à la culture. Mmh. Tous ces enfants qui se retrouvent dans des situations économiques plus difficiles, nous devons pouvoir leur offrir un environnement et un développement qui leur permettent de se développer de façon, j'allais dire, harmonieuse et satisfaisante.
Alors, en plus, quand vous prononcez le mot d'harmonieux, on se dit que lorsqu'il n'y a pas de conflit au moment du divorce, bon, les choses peuvent aller de soi. D'ailleurs, lorsqu'on voit les statistiques, pour 8 parents sur 10, au moment du divorce, le choix du lieu de résidence ne pose pas problème. Et puis, il y a les divorces contentieux. Et alors là, il faut faire appel au juge. Il y a seulement la moitié des personnes qui passent devant un juge avec un divorce conflictuel qui estime que celui-ci répond à leurs attentes. Là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et lorsqu'il y a la question donc, de la garde alternée, est-ce que une manière d'appréhender les choses peut être moins conflictuelle que l'autre, Marie-Rose Moreau ?
Alors, la question, y a la question de pourquoi et puis il y a la question de comment on fait. Pourquoi on se sépare et comment on fait. Et les deux niveaux sont aussi importants pour les enfants, l'un que l'autre. Mais il y a une sorte d'hypocrisie dans cette question sociale, économique, c'est-à-dire que parfois, on considère que celui qui a le plus d'argent, c'est celui qui serait le plus à même d'assurer la sécurité psychologique des enfants. Et ça, il faut le dénoncer, parce que c'est pas, en tout cas pour les enfants, c'est pas comme ça que ça se pose. Il est vrai que si les enfants peuvent plus aller à l'école dans de bonnes conditions, peuvent plus faire des activités de loisirs dans de bonnes conditions, ils vont aussi sentir quelque chose de l'ordre de la perte importante. Donc, je crois que ces éléments-là doivent être considérés sans naïveté, quoi. C'est-à-dire, il faut défendre le droit de chacun dans cette question.
En tout cas, je ne sais pas si on a une proportion supérieure à 8 divorces sur 10 qui se passe bien, mais les débats autour de ces textes sont toujours des débats assez animés avec des points de vue assez tranchés. On écoute Jean Latizeau qui est président de l'association SOS Papa.
Par rapport à la tentative de loi de 2014, puisqu'effectivement elle a été votée en première lecture et ensuite elle n'a jamais terminé son parcours parlementaire, effectivement sur le fond il y a strictement rien de différent. C'était l'ensemble du groupe socialiste qui, à une date symbolique du 1er avril 2014, avait sorti déjà ce texte étrange, qui était une combine, il n'y a pas d'autre mot, puisqu'il y avait déjà le grand écart entre l'exposé des motifs qui disait « oui, il y a un problème, les pères sont discriminés, etc., etc. » Vous allez voir ce que vous allez voir dans l'article 7. Et dans l'article 7, c'était « Ah, à partir de maintenant, les enfants seront doublement domiciliés chez papa et chez maman. »
Hélène Périvier, qu'est-ce que vous en pensez de ces discriminations ? Puisque lorsqu'on regarde la manière dont ce projet de loi a été accueilli par les députés, il est souvent question de discrimination. Les uns donc défendant ce projet de loi, évidemment. Les autres considérant qu'il y a une discrimination contre les pères, par exemple. Point de vue.
Je crois d'abord que ce qui est la décision qui est prise finalement par le juge, c'est souvent les parents qui viennent avec la solution. Donc, ils proposent que ce soit la mère qui regarde. Donc, c'est un peu faussé de dire que le juge donne la garde à la mère, parce que dans les faits, c'est pas exactement ça qui se passe. C'est que les parents arrivent avec cette solution-là. Alors qu'ensuite, il y ait des situations dans lesquelles des pères se sentent lésés parce qu'ils voudraient avoir plus de temps à consacrer à leurs enfants et qu'ils souhaiteraient avoir une garde alternée, c'est certainement probable, ça doit certainement arriver, et c'est une demande bien légitime et que nous devons accompagner. Mais quand on regarde la majorité des cas, c'est pas exactement ce qui se passe. Par ailleurs, quand on regarde quand les gens sont en couple, le temps investi par les deux parents dans les soins aux enfants est quand même beaucoup plus important pour les mères que pour les pères. Même si, c'est vrai que sur les dernières années, on a vu que les pères s'investissent beaucoup plus dans l'éducation de leurs enfants, mais néanmoins quand même, il reste un décalage. Donc je pense que chaque cas peut être particulier. On peut très bien avoir une demande tout à fait légitime des pères à avoir ce temps, à pouvoir consacrer du temps à l'éducation de leurs enfants. En même temps, encore aujourd'hui, la demande des parents en cas de séparation est beaucoup plus que la mère et la garde. Donc, il faut pouvoir avoir une situation dans laquelle j'aurais envie de dire tout est possible. Et puis avec une éventuellement en cas de conflit, bien sûr, le juge qui puisse trancher pour que la solution soit la meilleure pour l'enfant.
Mais ce que vous venez de dire sur la garde par la mère, alors c'est un argument qui a été largement présent dans les débats. Par exemple, un député Stéphane Peu du groupe démocrate et républicain a dit pourquoi imposer un mode de garde que 75% des parents ne choisissent pas. Donc c'est un argument contre la garde alternée. Mais dans le contexte actuel, comme la garde alternée n'est pas véritablement mode de garde que l'on promeut, il est assez normal qu'elle soit minoritaire, non ? Vous ne trouvez pas ?
Oui, alors ça, sur la question de comment on met en place un dispositif qui permette de, disons, de détendre davantage la garde alternée, ça, je pourrais pas me prononcer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une demande, qu'il faut enclencher une dynamique. Mais par exemple, si vous regardez les débats autour du congé paternité, j'ai pas vu de soulèvement massif, malgré la pétition qui a été publiée dans le journal Cosette, j'ai pas vu de demande très massive des pères d'avoir un congé paternité obligatoire à long. Donc, je veux dire, il faut bien sûr aller dans ce sens, mais il faut aussi voir que la demande, elle est potentiellement pas si forte que ça. Donc, que nous cherchions à avoir un environnement qui permette de donner plus d'espace au père, c'est un légitime, deux tout à fait favorable à l'égalité femmes-hommes. Mais bien sûr, il faut le faire en proportion de ce qui va être appliqué. Donc, on peut pas obliger la garde alternée aujourd'hui. Maintenant, ouvrir un espace qui permette de l'étendre et de la rendre de plus en plus fréquente, c'est certainement quelque chose de positif.
On écoute le témoignage d'un père.
C'est au moment de la séparation où on se dit on le veut pour soi. Il est pour moi et je le garde. Mais après, en réfléchissant, en laissant tomber un petit peu les conflits qu'il y a avec son ex, on se rend compte que pour l'enfant, c'est quand même mieux qu'il puisse grandir auprès des deux. On apporte des choses différentes. C'est compliqué, mais c'est un cheminement.
Marie-Rose Mourou, vous en pensez quoi ? Et cette prise de conscience que finalement... l'intérêt supérieur de l'enfant, ça c'est ce que dit le législateur, c'est ce que disent aussi les pères et les mères, mais est-ce celui qui prime finalement lorsque le divorce arrive devant le juge ou lorsqu'il y a conciliation ?
Ben, moi je crois que c'est pas l'intérêt supérieur de l'enfant qui prime la plupart du temps, on le voit bien autour des évolutions actuelles, mais c'est pour ça qu'il faut insister pour prendre en compte l'intérêt de l'enfant, il faut qu'il y ait des discussions en amont, parce qu'il est vrai que c'est en général, quand ça se passe bien, c'est quand les parents arrivent et disent voilà, on s'est mis d'accord sur telle situation, donc il faut discuter, il faut pas parfois se faire aider, les médiations, il y a aussi parfois une nécessité de thérapie lorsque vraiment ça fait très mal aux enfants ou quand ça fait très mal à un des parents. Il faut vraiment tenir compte de cette question de la souffrance autour de cette situation. Et moi, je vois un certain nombre de choses qui sont dites plus comme des blessures narcissiques des parents que comme l'intérêt, la prise en compte de l'intérêt des enfants. D'où l'importance du travail en amont.
Enfin, ce que vous pensez depuis le début, c'est que ces projets de loi et ces réformes s'adressent d'abord aux parents et que l'intérêt de l'enfant, il est ce qui va permettre de justifier a posteriori ce que l'on cherche à construire pour les parents.
Exactement. Je crois que c'est, et c'est, à mon avis, c'est de là, de ce cercle-là qu'il faut sortir, de la même façon qu'il faut bien regarder comment ça se passe sur le plan social, quoi. Demander la garde alternée lorsque les deux parents ne sont pas occupés d'un petit enfant, ça n'a pas de sens. Donc mais en même temps, il est très très important de garder la place des parents, la place du père et de la mère. Donc c'est vraiment une sorte de paradoxe de la société. Ça montre aussi que la société, elle est en train, les modèles familiaux sont en train d'évoluer et qu'il faut les accompagner tranquillement, quoi.
Si la société suit, parce que les modèles familiaux c'est une chose, mais si par exemple on est dans une société où l'écart de salaire est encore
très important
en défaveur des femmes, évidemment, dans ce cas-là, la garde alternée, c'est un problème.
Oui, mais donc il faut travailler sur la question. Alors là, c'est vraiment une question d'égalité femmes-hommes, donc d'émancipation des femmes et faire en sorte que la société française lutte contre cette forme d'inégalité qui est inacceptable. Et donc voilà, ça veut dire que elle se joue en partie dans la famille, puisque c'est en partie parce que les femmes sont davantage centrées sur les tâches familiales et domestiques qu'elles ne peuvent pas avoir les mêmes carrières que leurs conjoints. Et donc, in fine, lorsqu'il y a séparation, elles peinent à retrouver le niveau de vie qu'elles avaient quand elles étaient en couple. Donc là, il y a beaucoup à faire. Il y a aussi encore encore beaucoup de discrimination sur le marché du travail. Donc il y a beaucoup à faire de ce point de vue-là. Ça, c'est vraiment une réforme de fond de notre société pour faire en sorte que chaque individu, quel que soit son sexe, puisse avoir une carrière, une vie de famille, s'occuper de ses enfants. Ça, j'ai envie de dire, c'est ce vers quoi nous devons tendre. Donc quels sont les outils aujourd'hui pour faire évoluer la société? Ils sont multiples. C'est certainement pas seulement la garde alternée. Peut-être que c'est un peu réfléchir à ces questions de garde des enfants, mais c'est aussi réfléchir à la place des femmes et des hommes dans la société. Je parlais du congé paternité. Je pense que c'est très important parce que ça participe à ce changement-là de la façon dont nous envisageons la vie de famille et la vie professionnelle pour chacun et chacune d'entre nous.
Mais alors, tant que cette égalité restera un vœu pieux, il faudra adapter les lois, et notamment en matière de divorce. On voit bien que ça coince à ce niveau-là. Et ça coince d'autant plus que les arguments contre la garde alternée, alors ils ont été très divers, mais on a parlé chez les Républicains, par exemple, d'une démarche idéologique. On a parlé de ceux qui voulaient rééduquer ceux qui n'adoptaient pas la pensée unique. Donc on est allé très loin quand même dans critique.
Moi, je dirais quand même que ces débats sur la famille sont souvent très passionnels et très politiques. Parler d'idéologie, de toute façon, s'agissant de famille, c'est question de normes sociales, de pratiques. Il n'y a pas de bonne famille et de mauvaise famille. Donc, je pense qu'on doit plutôt collectivement réfléchir à des solutions qui permettent d'avoir des politiques publiques qui offrent une multitude de possibilités, parce qu'aujourd'hui, les familles sont multiples, elles sont extrêmement diverses. Et c'est ça qui fait qui est un vrai défi pour l'État social aujourd'hui.
On écoute un dernier témoignage, Marion, 30 ans, sur le divorce de ses parents à 15 ans.
Le divorce de mes parents, donc autour de mes 15 ans, s'est fait dans les meilleures conditions matérielles possibles, hein, aucune violence. Il y avait une égalité totale dans la manière dont mes parents s'occupaient de nous, dans l'éducation. Mais par contre, j'ai très très mal vécu de vivre dans les valises pendant des années. Il m'a vraiment manqué un chez-moi, un point d'ancrage. Et je reste persuadée que c'est très dangereux pour la construction des enfants que ça devienne une norme, cette garde alternée. C'est très confortable pour les parents, je suis d'accord. C'est déjà pas mal pour des enfants d'avoir des parents bien dans leur peau. Mais pour leur construction, je pense que c'est vraiment pas le top.
Marie-Rose Moreau, je vous ai vu sourire.
Mais je souris. Parce que ce que dit Marion est juste, mais bien sûr ce que disent d'autres enfants, d'autres adolescents qui l'ont vécu différemment est juste aussi. Il y a vraiment une multiplicité.
Vous dites qu'un cas est un cas, et ça comprend, Marie-Rose. Mais d'un autre côté, vous dites aussi que finalement ces lois depuis le début, elles sont faites pour les adultes et pas pour les enfants.
Oui.
Et donc là, un cas n'est pas un cas.
Je pense que les lois, pour l'instant, elles sont faites essentiellement pour les adultes et qu'effectivement, on ne prend pas assez en compte la diversité des familles et aussi le fait qu'aujourd'hui, en France, les femmes s'occupent énormément des enfants au détriment de leur carrière, de tas d'autres choses et qu'ensuite, au moment du divorce, cette question-là n'est pas rejouée. Et que tout ça est important pour que les enfants, ils puissent avoir finalement prendre ce qu'ils peuvent prendre chez leurs deux parents et être en sécurité. Mais bien sûr, la multiplicité des expériences, franchement, les pédopsychiatres sont bien placés pour savoir qu'on vit ça de manière très très différente.
Et les économistes, eux, en revanche, ils voient plutôt, non pas qu'un cas est un cas, mais qu'il y a au contraire des régularités observables. Vous évoquiez donc les différences de traitement entre les hommes et les femmes. Et là, on voit bien quand même qu'on achoppe sur une question qui est sociale avant tout.
Oui, parce que, par exemple, la question de la pauvreté des enfants, hein, qui est assez aiguë, y compris dans un pays riche comme la France, qui est un véritable problème qu'on peut pas prendre à la légère, parce que ces enfants pauvres vont avoir des possibilités d'émancipation moindres, des possibilités de se développer, d'avoir accès à l'éducation qui vont être moindres que les autres. Mais ça fait partie, la question de la façon dont nous gérons ces séparations, ça interroge la question de la pauvreté des enfants. Donc les politiques publiques doivent avoir une forme à la fois de souplesse dans leur mode d'application, puisqu'aujourd'hui les modes de vie sont multiples et variés, et il s'agit pas d'interdire aux gens d'avoir la vie qu'ils souhaitent avoir. Mais par contre, les enfants sont toujours très vulnérables et leur offrir des possibilités de vie qui soient décentes et essayer de lutter contre cette pauvreté des enfants, c'est très important. Et la question des ruptures, elle est très centrale dans cette question de la pauvreté des enfants. Donc il faut vraiment trouver des politiques publiques qui permettent d'accompagner la perte de niveau de vie au moment de la séparation des enfants, des parents.
Mais justement, lorsque vous calculez ces questions de niveau de vie, Hélène Périvier, vous qui êtes économiste à l'OFCE, est-ce que vous vous avez l'impression que les politiques, lorsqu'ils changent une loi au sujet du divorce, ils en tiennent compte?
Non, et d'ailleurs, on a fait un travail avec un de mes collègues sur une estimation des échelles d'équivalence, c'est-à-dire la façon dont on compare le niveau de vie de familles de tailles différentes. Mm-hmm. On utilise des échelles d'équivalence qui aujourd'hui sous-estiment fortement le niveau de vie des foyers monoparentaux, donc le plus souvent des mères qui ont leurs enfants à charge, ou également celui des pères qui vivent seuls et qui ont un enfant à charge dans un autre foyer, parce que ceux-là, on va considérer qu'ils ont le même niveau de vie qu'un célibataire qui n'a pas d'enfant à charge. Or, vous voyez bien que vous avez des frais qui affectent ce niveau de vie. Donc, même y compris dans la façon dont on mesure la pauvreté ou les inégalités aujourd'hui, on a une vision tout à fait biaisée et on ne prend pas suffisamment en compte ces nouvelles formes de famille et de foyer.
Et vous, Marie-Rose Moreau, vous l'avez dit, vous n'avez pas la sensation d'être véritablement écoutée par les politiques, puisque vous pensez qu'ils font de la politique pour eux. Les vieux, pas pour les jeunes, pas pour les enfants.
Et oui, et Dieu sait que c'est important d'assurer la sécurité, le bien-être. Et l'idée que, on voyait dans les témoignages, que les enfants se disent que la vie, elle vaut la peine d'être vécue, même s'il y a des drames autour d'eux, et même si, effectivement, les choses peuvent être parfois difficiles, y compris d'un point de vue économique.
Merci Marie-Rose Moreau, merci Hélène Périvier.